Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, ce que nous venons de chanter, nous pouvons le vivre. Je voudrais lire avec vous plusieurs textes avant d'entrer dans le vif du sujet. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, Jésus commence son ministère et il va citer une expérience qu'une femme a faite dans un temps difficile. Regardez bien cette histoire comme elle est extraordinaire dans l'évangile de Luc au chapitre 4 donc au verset 25. Il est dans la synagogue de Nazareth et il parle à ces hommes, ces femmes qui sont là réunis. Ce sont des religieux, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Luc chapitre 4 verset 25. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Dont ce texte nous parle, c'est Jésus qui parle, des moments où nous traversons des famines et même des grandes famines. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Verset 28, il donne un autre exemple, mais celui qui nous intéresse, on l'a lu. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Le Seigneur Jésus commence son ministère, tout le monde est émerveillé. Et pourtant, il entre dans le vif du sujet en citant une histoire qui s'est vraiment passée, bien sûr, et où nous voyons que Dieu s'est intéressé non pas au peuple religieux, mais à une femme étrangère. Bien sûr que les Juifs, vous l'avez vu, étaient remplis de colère parce que Jésus était en train de leur dire « Dieu n'a pas pris soin de vous. Dieu a pris soin d'une étrangère. » Ils ont vite compris le message. Ils ont vite compris que tout religieux qu'ils étaient, ils ne savaient pas saisir la grâce de Dieu. Mais Dieu lui voit. Quelle que soit l'époque dans laquelle un homme puisse se trouver, quelle que soit la difficulté, il y a tout le temps eu des siècles de famine, des époques de famine, des époques d'abondance ou autre. Et là, je comprends la réaction de ces juifs, de ces religieux. Ils sont dans la synagogue, là où la parole de Dieu était prêchée, correctement. Mais Jésus veut leur montrer quelque chose, c'est que la religion, c'est une chose, la foi, c'en est une autre. C'est vrai que nous passons tous des moments difficiles. J'aimerais lire avec vous un psaume, un verset d'un psaume, pour parler de comment se comporter dans la famine. C'est ça le titre de ma prédication. Enfin, c'est pas le titre exactement. Dans le psaume 33, il est parlé, au verset 18 et au verset 19, d'une catégorie d'hommes et de femmes, bien sûr, qui échappent à la famine. Psaume 33, c'est David qui dit ceci. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Regardez bien pourquoi. Afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Vous pouvez dire. Amen. Alors si vous lisez le psaume 31, c'est un autre psaume de David. Alors David, il passe un moment où il n'est pas bien. Est-ce que ça arrive, ça, des moments où on n'est pas trop bien? Non? Et oui, ça, regardez, il va pas bien. Il va pas bien. Mais c'est bien de ça nous rassure à nous. Regardez. On va lire le verset 8. C'est important parce qu'à des moments, on va bien, à des moments, c'est difficile. Et on a tous ces moments. Même le roi David a eu ces moments. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Oui, il espère ça. Mais tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Voyons, on peut être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit quand il écrit le psaume? Mais ben oui, sinon le psaume ne serait pas écrit. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais les angoisses de mon âme. Vous voyez qu'on peut être, en communion avec Dieu et dans un véritable combat. Verset 10, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, alors il y a le corps, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, mes années dans le soupir, ma force est épuisée à cause de mon iniquité. On va lire le verset 23. Regardez les conséquences de la fatigue physique, psychique, spirituelle, intellectuelle. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Regardez les bêtises que l'on peut dire. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Ça, c'est une ânerie de parler comme ça. Nous allons maintenant lire l'histoire qui nous intéresse, où Jésus fait allusion de cette seule femme qui, dans une grande famine qui touchait non seulement Israël, mais les pays alentours, a été bénie. Parce que c'est ça qui nous intéresse à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 Rois, chapitre 17, verset 9. Nous allons lire ce qui nous... C'est très important, parce que si on a chanté que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, si nous écoutons les conseils qui vont être donnés maintenant, je peux nous dire que cette soirée servira à nous approcher de Dieu. 1 Rois, chapitre 17, verset 9. C'était dans cette grande famine, une veuve dans une extrême pauvreté, vous allez le comprendre par la lecture. 1 Rois, chapitre 17, verset 9. « Lève-toi, va à Sarepta, donc c'est au Liban actuel, donc c'était pas en Israël, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Les famines, dans les famines, c'est compliqué. Il y a des famines spirituelles, il y a des famines de tous ordres. Ces moments où on n'est pas bien, où on manque, une famine, je manque. Je pensais cet après-midi en priant à l'histoire de Ruth. J'ai beaucoup pensé à cette femme qui a été bénie à cause d'Élimélec. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Ruth. D'ailleurs, c'est pas loin, on peut y aller. C'est juste après, avant. On va juste lire l'introduction. Vous savez les choix que l'on fait. On est tout le temps en train de faire des choix. Est-ce que vous le savez? Bon, il y a des choix qui sont faciles. Au restaurant, est-ce que je prends une salade? Est-ce que je prends un morceau de jambon? Bon, c'est pas grave ça. Est-ce que c'est important? Bon, non, ça n'a pas d'importance. Mais il y a des choix qui peuvent déterminer des années. Et quand vous lisez le livre de Ruth, c'est un livre extraordinaire où vous voyez comment Dieu peut changer le mal en bien. Parce que c'est ça le livre de Ruth. Moi, dans les livres, je vous le dis, ne le dites à personne. Hein. Je mets des titres, moi. Et j'ai donné plusieurs titres au livre de Ruth. Mais un, Dieu change le mal en bien. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Voyez, une famine. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Vous voyez le contexte, c'est un truc de fou. Cet homme, Élimélec, en plus, si je ne me trompe pas, ça veut dire Dieu est roi. Bon, il portait mal son nom. Et il y avait une famine. Bien sûr, lui s'est dit, on ne peut pas rester là, on ne peut pas rester à Bethléem, il faut partir. Bethléem, ça veut dire maison du pain. Il n'y a plus de pain, on s'en va, on fuit. Et nous ne nous rendons pas compte quand dans la précipitation, comme David dans le psaume 31 disait, dans ma précipitation, quand on se précipite, on dit que des bêtises. 10 ans d'épreuve, alors c'est vrai que Ruth a été au bénéfice de cette bénédiction, de cette épreuve. Ruth a su voir la grâce de Dieu. Et je voudrais vous dire que nos choix, on les paye cher souvent. Alors quand c'est des bons choix, non, bien sûr. Mais ça vaut la peine, même dans la souffrance, d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Cette femme, elle était en train, comme par hasard, de préparer son dernier repas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'angoisse dans laquelle on pourrait se trouver. Imaginez-vous, parce que des fois on dit on n'a rien, il y a des gens qui sont pauvres, c'est vrai. Mais vous savez, il y a une grande différence entre la pauvreté et l'indigence. La pauvreté, j'ai pas grand-chose, mais enfin, j'ai quand même quelques conserves dans le placard, j'ai quand même quelques paquets de pâtes, j'ai des sacs de riz, vous voyez, un peu d'huile. On peut être pauvre et avoir quand même quelques réserves. L'indigence, c'est je n'ai plus rien. Et cette femme, elle était dans l'indigence, elle n'était pas dans la pauvreté, elle était dans l'indigence totale, comme certains clochards dont on voit, hélas, leur indigence. Et Jésus parle de cette histoire pour bien expliquer quelque chose. C'est que la religion, ça ne sert pas à grand-chose. Mais la foi, ça fait mouvoir le bras de Dieu. Et ce soir, où nous sommes des gens religieux, c'est-à-dire des gens habitués à lire la Bible, à prier, à aller à l'église, à développer une communion même réelle, c'est beau ça quand même, non? Est-ce que c'est bien la communion fraternelle? Mais bien sûr. Est-ce que le fait d'être dans une église, c'est un bienfait? Le faire de lire la Bible, c'est un bienfait, même pour la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Mais Jésus est en train de leur dire, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu ne s'est occupé que d'une étrangère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils étaient furieux, ils étaient remplis de colère. Ils auraient, au contraire, ils auraient dû dire, Seigneur, donne-moi une vraie foi. Que la religion ne m'empêche pas de... Vous voyez, est-ce qu'ils auraient bien pu réagir? Mais bien sûr, et ça devrait être notre cas ce soir. Même si nous sommes des religieux, voyez, des routiniers, si nous vivons dans le train-train de la religiosité pentecôtiste, ne nous alarmons pas. Au contraire, disons, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une foi vivante, même si je suis dans une grande souffrance? Parce que cette femme, je ne sais pas si vous avez vu, c'était compliqué quand même. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça nous autorise à fuir, à dire n'importe quoi, et à rendre les autres malheureux. Parce qu'Élimélec, mine de rien, non seulement il est mort, mais ses deux fils sont morts. Et il a mis sa femme dans une souffrance terrible. Et heureusement que Dieu change le mal en bien. Vous le croyez ça, que Dieu change le mal en bien? Il est tout puissant, c'est sa personnalité. Notre Dieu, il sait faire ça bien, de changer le mal en bien. Et là, nous avons cette histoire, Jésus la reprend, donc c'est qu'elle est importante, parce que la vie est faite de temps d'abondance, gloire à Dieu. Mais la vie peut être aussi faite de temps de famine. On peut être dans l'abondance, par exemple, matérielle, et être dans une famine spirituelle, et vice-versa. Et les deux parfois même. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, c'est extraordinaire. Imaginez que Dieu voit tous les habitants de la terre. On n'est que 7 milliards 500 millions, mais Dieu connaît chacun par cœur. Ça vous rassure? Ben oui. C'est écrit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir le cœur de celui qui est tout entier à lui. Ce n'est pas une question de pauvreté ou de richesse, justement. C'est une question de cœur. Est-ce que Dieu soutient que les pauvres? Est-ce que Dieu ne cherche que les pauvres qui meurent de faim? Ou est-ce que Dieu bénit aussi les riches qui sont de l'abondance?
Il vous sera fait selon votre richesse? Pardon, il vous sera fait selon votre pauvreté? Non, il vous sera fait selon votre foi. Et ce soir, Dieu permet, et c'est une grâce. Il faudrait que nous allions en Syrie pendant quelques semaines pour regarder dans quel état sont les gens. Et je crois que nous n'attristerions pas le Saint-Esprit si nous étions dans un état continuel de reconnaissance. Parce que se plaindre, alors que nous avons un toit, que nous avons un lit, des couvertures, parce que je ne sais pas si vous savez, c'est un bienfait d'avoir aussi des couvertures. Vous savez que tous les jours, dans le monde, toutes les nuits plutôt, il y a des gens qui meurent de froid. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas de couverture. Et c'est la raison qui fait que souvent nous avons attristé le Saint-Esprit, parce que nous pourrions bénir Dieu pour toutes ses faveurs. Il y a des gens qui ne pourront jamais acheter un livre. Un livre, mais ça coûte combien ? Mais ça coûte 12 euros, 13 euros. Alors ne parlons pas de voiture. Je vous parle d'un livre. Il y a des gens sur la terre qui ne pourront jamais acheter un livre. Et nous devrions, nous, justement, dire, mais Seigneur, quand même, je réalise les bénédictions dans lesquelles je suis. Jésus utilise ce texte, c'est son premier sermon, en vérité. La première fois où Jésus prêche, il y a un texte d'Ésaïe et il cite cette affaire. Pour nous montrer une chose, c'est que Dieu, il regarde au cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que dans une église, la nôtre, ce soir, tout le monde peut passer à côté de la grâce, mais que s'il y a dans un immeuble, dans une maison riche, n'importe, quelqu'un qui crie à Dieu de tout son cœur, eh bien, Dieu pourvoira. Parce que Dieu bénit la foi. Nous, on est là, coincés avec notre religion, mais moi, je peux vous dire que Dieu bénit la foi. Et il a été vers cette pauvre étrangère, il a envoyé en plus le prophète Élie, mais nous c'est pas le prophète Élie qui va nous envoyer, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus, ce sont ses anges avec lesquels Dieu pourvoira. Et nous voyons cette femme, qu'elle est pas, elle ne se met pas en colère parce que quelqu'un lui demande son dernier sandwich. Non, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut regarder les réponses. Pour développer le même état d'esprit. Elle se lève, il a la, voyez, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Demande poliment, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? Qu'est-ce qu'elle fait de suite? Elle dit pas, non mais attends, tu sais dans quel état je suis? Hein? Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait. Et il apporte, et de nouveau, il recommence. Dieu nous teste. Est-ce que vous savez que Dieu nous éprouve? Et il recommence, et cette fois-ci, va me chercher, je te prie, un morceau de pain. Elle répond la vérité. Vous savez, il faut dire la vérité toujours. Parce que même si on n'a pas grand-chose à offrir, on peut bien chanter « Seigneur, j'ai rien à t'offrir, mais au moins je te dirai toujours la vérité. » Ça, c'est déjà une bonne chose. Elle est dans un état dont c'est, l'honnêteté, c'est archi important, que vous soyez vrai. Vous savez, le mieux, c'est ça, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça commence comme ça. Qu'est-ce que Dieu dit à cette femme au travers du prophète? Et c'est ça qui nous intéresse. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Regardez bien. Verset 13, c'est le verset 13 qui devrait se graver dans notre cœur pour que vous compreniez que quel que soit ce qui peut se passer sur la terre de fou, on a lu tout à l'heure dans l'introduction aux jeunes, quand vous verrez toutes ces choses, ces bruits de guerre, ne vous effrayez pas. Qu'est-ce que Dieu dit à cette femme? Il lui dit trois choses en vérité. Et si nous recevons ces trois choses, je peux vous dire que nous reproduirons la même expérience. Premièrement, il lui dit, ne crains point. Ne crains point. Un. Deuxièmement, il lui dit quelque chose de très très important. Rentre. Et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Écoutez bien, frères et sœurs. Ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction, afin que dans la famine, le Seigneur intervienne au moment où il doit intervenir. Et il sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Il a son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. On peut perdre 10 ans, comme Élimélec, qui a commis l'erreur de fuir. Comme David. David, c'est pas n'importe qui. Je disais dans ma précipitation, vous savez, il y a des gens sur un acte de, mais sur un acte de folie, de bêtise. Ils envoient tout balader. Et ils perdent. Alors quand on perd 3 jours, bon, c'est pas grave. Mais quand on perd 10 ans ou 15 ans de sa vie, quel dommage. Alors, je voudrais vraiment que, simplement, peut-être que ce soit votre prochaine expérience, parce que ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous pouvez vous le vérifier d'une manière théologique, mais surtout d'une manière pratique. Ne crains point. Ne crains point. C'est étonnant de voir le nombre de fois dans la Bible où il est dit, mais ne crains pas. Je suis en train de vérifier le nombre de fois. Il y en a beaucoup. Non. Je suis en train de les vérifier. Avec les ne vous épouvantez pas, ne vous effrayez pas, que votre cœur ne se trouble pas, oui, on arrive à 365. Mais il n'y a pas 365 fois, ne crains pas. Par contre, il y a des centaines de fois, cette parole, ne vous épouvantez pas, ne vous effrayez pas, ne vous alarmez pas, ne vous inquiétez pas, oui, là oui. Mais mes frères et sœurs, quelle bénédiction. Vous ne trouvez pas que c'est formidable? Tout à l'heure, on lisait pendant le jeûne et prière tout ce qui va arriver sur la terre, des guerres, des bruits de guerre, etc. Jésus dit, ne vous effrayez pas. Ça fait partie des 365. C'est pas une bénédiction, ça? Ne crains pas. Mais c'est grave. Et mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients que des grandes choses que Dieu fait, il les fait avec des paroles toutes simples? Il va pas prendre 3 semaines pour expliquer à Marie, la maman de Jésus, comment il va faire pour que sans l'intervention d'un homme, elle tombe enceinte. Il va lui dire, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur, dans son immense souveraineté, nous dit, au travers de moments comme celui-ci, 3 choses, ne crains pas. Et c'est vrai que ça vaut la peine peut-être de reprendre la parole et de dire, tiens, David, s'il a eu un moment de difficile, il a dit, j'ai noté le psaume 56, verset 5, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » Quand vous vous confiez en Dieu, la conséquence qui suit, c'est que vous n'avez rien à craindre. Rien. Et ça vaut la peine de... Alors là, je sais qu'aujourd'hui, on peut tous le faire, en plus avec une concordance. Tout le monde peut prendre une concordance. Vous tapez sur votre Google, là, concordance biblique, et vous avez tous les textes où il est parlé de cette affaire de ne rien craindre. Ne crains rien. Dieu est ma délivrance. Je ne crains rien. L'Éternel est pour moi. Je ne craindrai rien. Bien sûr, il faut obéir. Il faut obéir. Parce que pour avoir de l'assurance, on ne peut pas vivre comme un patachon. Il faut quand même vivre dans un minimum de piété. L'Éternel est ma délivrance, je ne craindrai rien. Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis l'Éternel qui te dit, ne crains rien. Enfin, on pourrait multiplier les textes, je ne sais combien de fois. Le Seigneur est mon aide dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, 6, je ne craindrai rien. Vous avez vu, mais c'est quand même, ça vaudrait quand même la peine. Bon, on n'a pas le temps, c'est peut-être pas utile. Mais comme je disais tout à l'heure, dans la prophétie sur l'enlèvement de l'Église sur les derniers temps, enfin, il y a de quoi, excusez-moi l'expression, mais il y a de quoi flipper vraiment. Et Jésus dit, mais ne vous effrayez pas, que votre cœur ne se trouble pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va être des super costauds? Non, ça veut tout simplement dire, moi, le Seigneur, je vous protège. Je vous garde. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire vous avez intérêt à être costaud. Ça veut dire obéissez-moi. Rentrez peut-être. Vous avez vu, rentre. Il aurait pu dire à cette femme, va bosser un peu, voyez, je ne sais pas. Vous savez, des sermons culpabilisants. Rentre. Ne crains rien. Rentre. Et prépare-moi d'abord un gâteau. Elle aurait pu dire, non mais franchement, pour qui se prend? Je viens de lui dire qu'on va mourir avec mon fils parce qu'on n'a plus rien à manger. Et lui me demande en plus non seulement du pain, mais de lui faire un gâteau. Non mais sincèrement, est-ce qu'elle aurait pu se fâcher? Mais bien sûr, non mais franchement, de quoi je me mêle? Vous savez, mes frères et sœurs, quand Dieu nous demande quelque chose, ça vaut la peine de le faire. Et si ce soir, le Seigneur m'utilise dans sa bonté pour nous dire... Ne crains rien. Quelle que soit l'abondance ou la famine dans laquelle tu te trouves, rentre. Rentre, vous savez combien de fois il est dit, cache-toi quelques instants, si, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret. C'est la même chose, rentre chez toi, enferme-toi dans ma présence, fais ce que je te demande. Vous croyez pas que ça vaut la peine de chercher Dieu? Cette femme, elle s'est pas aigrie. Il y a des gens, ils utilisent tout le temps le passé. Et ça, c'est pas bon, ça. parce que j'ai souffert, parce que j'ai eu une enfance difficile, parce que mon père était un ivrogne, parce que mon père était violent, parce que mon père était ceci, parce que ma mère s'occupait pas de moi, parce que j'ai pas eu de câlin, et tatat. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Lorsqu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, lorsqu'on a mis sa confiance en Dieu, c'est Dieu qui devient notre Père. Et je crois qu'on a tout intérêt à se débarrasser de ce passé dont le diable voudrait nous emberlificoter. Je crois qu'on devrait dire, bon, maintenant je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, et si dans ta bonté tu m'envoies pas un sermon à 4 étages, mais un mot, 3 mots, ne crains pas, eh bien moi je choisirais de ne pas craindre. Point barre. Ou amen. Faites comme vous voulez. Vous êtes d'accord? Ne crains rien. Dieu est ton Père. Mais prenez les textes et regardez toutes les fois où tu dis, mais ne crains rien. Ne t'en occupe pas. Moi, le Seigneur, je m'en occupe. Ne porte pas des regards inquiets. Écoutez, quand Jésus dit, mais que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. En plus, il parle, lui, de je vais vous préparer une place dans le... Non, mais je ne sais pas si vous réalisez un peu. Dieu, je pense que c'est déjà fait, parce que tout est prêt, bibliquement, c'est déjà fait. Mais Dieu nous a préparé une place dans le ciel. Je vais vous préparer une demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, eh bien, je vous l'aurais dit. Je vais vous y préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ben, moi, je trouve que c'est bien. Vous trouvez pas que c'est bien? Cette délicatesse. Franchement, je veux pas faire de comparaison. Mais quand je vois la tendresse avec laquelle le Seigneur est capable de nous parler, avec des mots super simples, ne crains pas, mon frère, ma sœur, tu vas partir dans quelques instants. Moi, je te le dis, rentre chez toi sans crainte. Parce que toute la Bible nous enseigne à ne pas craindre. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, ça, ne crains pas. Vous voyez, ça dépend de la façon dont je vous le dis. Si je vous le disais d'une manière sévère, mes frères, ne craignez pas, moi je vous le dis. Ou mes frères, ne craignez pas. Vous voyez l'intonation qu'on utilise, ça peut être comparé, ça peut être présenté comme un commandement. C'est un commandement, c'est une invitation, c'est une sollicitude, c'est une invitation. Qu'est-ce que c'est? Moi, je crois que c'est une parole bénie, de consolation. Ne crains pas. Rentre chez toi. Prie ton Père dans le lieu secret. Relis les psaumes, peut-être. Moi, j'ai entendu des gens qui disent, moi, je lis que les psaumes. Bon, moi, je crois qu'il faut tout lire. Mais c'est déjà bien de lire que les psaumes. Vous voyez ce que je veux dire? À ne rien faire, il vaut mieux peut-être le lire qu'en boucle les psaumes. Mais si on les lit, je me rappelle de Madame Delabre, vous connaissez Madame Delabre, qui a perdu son mari. C'est vrai que comment elle a été une bénédiction, même dans le décès de son mari. Vous savez ce qu'elle nous a dit, cette femme? Je me souviens, quand elle s'est convertie, elle a vu plein de chrétiens qui étaient tout le temps en vrac. Elle a dit... Je vais lire le psaume 23 jusqu'à ce que je me l'approprie. Elle l'a lu, je ne sais pas combien de fois elle l'a lu. Jusqu'à ce qu'elle se l'approprie. Et je peux vous dire que cette femme, elle vit dans la foi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je suis meilleur que les autres. C'est pas ça? C'est quoi? C'est comment? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu a promis qu'il serait avec vous dans la famine, dans l'abondance, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la bénédiction, tout le temps. Ne crains pas, rentre et renouvelle cet acte de foi. Renouvelle, si tu es tout le temps dans la crainte, si tu as peur du lendemain, je peux te dire que cette prédication, elle est pour toi. Si tu es tout le temps en train de t'inquiéter, et on l'a entendu dans une prophétie, et on l'a entendu dans la présentation des chants, à savoir que quand on demande à Dieu du pain, eh bien, il nous donne du pain. Si vous avez demandé à Dieu une faveur, eh bien, attendez-vous à la faveur. Si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Si vous demandez à Dieu du pain, il vous donnera du pain. Alléluia. Et cette femme, vous pouvez, c'est pas écrit. Mais si Jésus en parle, si Dieu a envoyé son prophète vers cette femme, c'est que cette femme, même si elle était vraiment à deux doigts de craquer complètement, physiquement en tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette femme, elle devait prier Dieu. Rentre, prépare-moi d'abord. Bon, je vais vous dire, si vous voulez que ces choses se restent calées, il faut mettre Dieu en premier. Prépare-moi d'abord, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est une loi. Il y a trois Il y a bien sûr, ça doit être vécu dans l'obéissance, ça ne doit pas être vécu dans la religiosité. Ça doit être fait ce que je vous dis, ça doit être fait dans une obéissance de cœur. Bon, mais je vais le faire. Je vais m'attaquer à ce sujet. Je vais ne rien craindre. Je vais prendre les psaumes, je vais prendre le prophète Ésaïe, parce que souvent ça revient, et je vais m'approprier ces promesses. Ne crains rien, ne crains rien, ne porte pas des regards inquiets, ne crains rien parce que je suis ton Dieu. Enfin, combien de fois il va falloir que Dieu nous le dise? Si je n'arrive pas à le saisir, oui, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Mais je vais le mettre aussi en premier. Parce que vous le vouliez ou non, ça nous aide à obéir quand même. Quand on met Dieu en premier, vous pouvez calculer comme vous voulez, ça facilite cette affaire. Prépare-moi d'abord un gâteau. Eh bien, elle l'a fait. Le résultat quand même. Vous n'avez pas envie de refaire une expérience avec le Seigneur? Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de faire une expérience avec Dieu? Vous avez vu comment ils étaient les religieux? Ils ont été remplis de colère parce que Dieu n'avait pas béni les pentecôtistes. Il avait vécu une étrangère qui n'avait jamais été dans une synagogue. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils ont été furieux. Ils ont voulu tuer le Seigneur Jésus. Mais nous, au contraire, nous, on ne va pas mépriser le Seigneur. Au contraire, on ne pourra que dire, mais j'ai compris. Dieu bénit la foi. Que je sois souvent à l'église ou pas, Dieu bénit la foi. Alléluia. Demandons-lui cette faveur. De ne rien craindre. Gravez ça dans votre cœur. De rentrer souvent dans sa présence afin qu'on ne s'éparpille pas dans de l'amertume parce qu'il y a eu de la famine. Et surtout, si Dieu vous dit, prépare-moi d'abord, eh bien Seigneur, je te mettrai en premier, c'est clair. Notre Père, notre Dieu, tu parles par ta parole avec des mots si simples pour nous parler. Et si ce soir tu nous rappelles par ces trois conseils comment faire en sorte que le pain ne manque pas et que l'huile ne manque pas, nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Tu savais qui viendrait ce soir dans ta maison. Tu savais, Éternel, ce que nous avions besoin d'entendre. Et nous te remercions parce que ce que tu as fait pour cette femme, tu le feras pour ceux qui agissent de la même manière. Car tu nous as promis dans ta parole que tu ne faisais pas de favoritisme. Merci, Seigneur, de donner aux hommes cette assurance que même dans des temps difficiles, compliqués et même les temps de la fin, nous n'avons pas besoin de nous effrayer. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Garde nos cœurs gravés dans ces choses. Que ces paroles soient gravées non seulement dans notre tête, mais dans notre cœur, afin que nous nous souvenions que l'huile ne manquera jamais. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.